bit of the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games.
Salut les smarts, salut les marques, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch, même en période de confinement. Pour vous, chaque semaine, on regarde, on résume et on analyse les shows de la WWE, mais pas que, puisqu'aujourd'hui on parle AEW versus NXT, c'est la baston du mercredi. Alors pour gérer cette guerre du mercredi des audiences, il faut effectivement un militaire, un amiral, ça tombe bien, je suis amiral Armbar et je suis accompagné pour cette review des shows du 1er avril, ce n'est pas une blague, par le Luchasaurus des podcasts, Tonton Chris. Salut Tonton, comment ça va aujourd'hui?
Salut admirable, amiral Armbar, salut peuple de catch-up, écoute, ça va plutôt pas trop mal, préparons la trousse à pharmacie. C'est la review de la baston du mercredi, yeah!
Ouais, et ça va saigner cette semaine. Il y a eu presque un meurtre télévisé dans un des shows. On n'a pas encore les... On enregistre ce podcast, puisque du coup, confinement, on fait ça très vite. On est là jeudi, début d'après-midi, on vient à peine de regarder les shows, tout en Chris et moi, ce matin. On se réunit cet après-midi pour vous faire ce petit podcast de baston du mercredi. On n'a pas encore les reviews, les ratings, les audiences américaines, donc on ne sait pas qui a gagné. Mais petit récap, pour l'instant, sur les deux précédentes émissions baston du mercredi qu'on a faites avec donc Tonton Chris et Ringside. La première fois, donc il y a deux semaines, c'était AEW qui avait remporté les suffrages de catch-up. La semaine dernière, c'était NXT. Donc là, égalité, balle au centre. On verra en fin de podcast laquelle de ces émissions prend l'ascendant sur l'autre. Je te propose que honneur au vainqueur, on commence par reviewer du coup NXT qui a gagné la semaine dernière. Le vote catch-up, donc NXT, on commence à avoir l'habitude, c'est le Performance Center qui est donc vide. Terriblement vide de spectateurs. Ce soir, on commence direct dans le dur avec donc l'expérience Velvet in Dream, donc qui débarque tout sensuel qu'il est, afin de combattre Bobby Fish, puisque donc Dream est en train de chasser, de lorgner, de convoiter le titre de Adam Cole Baby, et donc Adam Cole décide de lui envoyer un peu ses sbires de l'Undisputed Era, et donc c'est le vétéran Bobby Fish qui ce soir s'y colle et va goûter l'expérience du Dream. Donc un petit match assez court où Bobby Fish sera seul, aucun autre membre de l'Undisputed Era sera visible durant le match et non plus après. Rapidement, Bobby Fish va attaquer la jambe de Velvet in Dream, lui causant une petite blessure douloureuse au genou qui va l'handicaper durablement pendant le match. D'ailleurs, je sais pas toi, mais j'ai trouvé que Velvet in Dream criait vraiment très fort de douleur. Peut-être qu'il a l'habitude qu'il y ait le public qui masque un peu ça. Là, on entendait gueuler comme une vache qui se fait trucider dans tout Performance Center. Mais malgré ce désavantage, Velvet in Dream placera en fin de match, donc du coup, un DVD, un Dream Valley Driver out of nowhere un petit peu, pour le compte de 3. Pas suivi de sa traditionnelle descente du coude Purple Rainmaker. Et donc après le match, il se prendra d'une petite promo très courte où il dira en gros à Adam Cole que il se rapproche de son titre, que Adam Cole devrait poser sa manette de jeu vidéo, il peut jouer beaucoup et gamer comme un gros porc durant le confinement, mais bientôt il va goûter à l'expérience et ce sera Dream Over. Alors toi du coup, je sais, il me semble que tu me l'avais dit la semaine dernière ou il y a deux semaines, que depuis quelque temps, le Velvet in Dream, t'étais plus aussi hypé qu'à ses débuts. Est-ce que ce match t'a réconcilié avec lui ou pas?
Je je trouve qu'il a baissé un peu d'intensité ces derniers mois. J'avais dit que je pense que c'était dû pas mal, je pense, à sa blessure. Entre autres, ouais. Et qu'effectivement, il était un peu moins. Alors, c'était pas vraiment que je suis moins hypé, mais c'est que je le trouve un petit peu en perte de vitesse, quoi. Mais pour le coup, on peut dire qu'il se relance, puisque là, il se rappelle au bon souvenir de Adam Cole, et que là, il se place véritablement en number one contender face à Adam Cole. Donc écoute, là, il a l'air d'être lancé vers le main event de NXT. On a eu un match qui a duré un bon quart d'heure, quand même. Ce qui nous change un petit peu de ce que nous propose la WWE ces dernières semaines. C'était plutôt pas mal. Hein, Bobby Fish qui m'avait l'air plutôt en forme. Donc le combat en lui-même était plutôt agréable, mais alors effectivement, comme tu l'as bien souligné, le problème quand même, c'est que le Velveteen Dream qui gueule un peu trop fort alors qu'il y a vraiment personne dans le Performance Center, et ça fait un petit peu étrange, quoi. Ça a un côté, ça a un côté un peu bizarre. Bon, de toute façon, moi je continue hein, sur le principe que les matchs sans public, c'est vraiment très très compliqué à appréhender. C'est assez, ça, voilà, ça nous berce un peu dans un océan de tristesse. Mais bon, il y a, en tout cas, on sent que les deux, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils étaient à fond et c'était pas si mal, pour un quart d'heure de match. Maintenant,
moi, j'aime. Ouais, vas-y.
Le seul truc pour finir là-dessus, c'est que, Velveteen Dream, je pense, profite largement du fait que Kisly à l'heure actuelle est American North Championship et que du coup, c'est lui qui est placé pour le titre suprême de NXT.
Ouais. Oui, un petit point, pas qui m'a gêné, mais j'aurais cool qu'il y ait au moins, par exemple, un Kyle O'Reilly qui soit aux alentours du ring, pas tellement pour intervenir dans le match, parce que Velveteen Dream gagne, c'est normal et c'est attendu, et c'est comme ça que ça doit se passer, mais ne serait-ce que pour faire un peu de bruit, pour qu'il y ait Kyle O'Reilly qui encourage Bobby Fish, etc., ne serait-ce que pour faire un peu là aussi d'interaction, faire un peu plus de foule, pour moins qu'on entende les mouches voler entre les prises, surtout puisque moi, je sais pas toi, mais alors ce soir à NXT, aux commentaires, on avait donc Tom Phillips, hein, qu'on a depuis le début du confinement, et avec lui c'était pas Byron, c'était Sam Roberts, et moi je ne supporte pas sa voix, Sam Roberts, vraiment elle me revient pas, et je trouvais que ce qu'il disait au micro était franchement pas intéressant, et vraiment les commentaires dans ce cadre de match sans public prennent une place encore peut-être plus importante que d'habitude, parce qu'ils habillent énormément le son durant les matchs, ce qu'ils disent, et là vraiment moi Sam Roberts, c'était pénible.
Voilà. Ah, pour le coup, je te rejoins. Déjà, pour une raison simple, hein, moi, hein, c'est que déjà, Mauro et Nigel McGuinness me manquent énormément.
Ouais.
En particulier, Nigel, enfin, tous les deux, en fait. Il n'y en a pas un plus que l'autre. J'aime les deux. Donc, je trouve Tom Phillips très professionnel. Mais voilà, je te rejoins. Le Sam Roberts est vraiment pas intéressant. Raconte que des conneries, se trompe sur les prises. Voilà. Vraiment un commentateur sans relief. Et donc c'est déjà assez difficile comme ça en ce moment de suivre les shows de la WWE. Alors si c'est en plus se taper un commentateur tout pérave, ça le fait pas trop.
C'est clair. On avance dans le show. On a une interview backstage avec donc ceux qui sont arrivés la semaine dernière. Hein, donc un duo de fort beau Golgot en provenance directe du Rajasthan et d'Inde, qui sont accompagnés de leur manager, donc Malcolm Bivens qui est présent. Donc on voit un replay où la semaine dernière ils viennent agresser The Original Bro Matt Riddle. Hein, et donc voilà leur manager. Malcolm Bivens oversell ces deux Golgot en donnant leurs statistiques, leur taille, leur poids, voilà, que c'est des gros monstres, qu'il a parcouru la terre entière pour chercher l'équipe de plus gros barbares qu'il pouvait trouver. Donc Rinku et Sorav, hein, c'est leur nom. Ils disent qu'ensemble, ils sont une force, mais c'est surtout une famille, les entreprises Bivens. Et ensuite, donc, l'intervieweuse tend le micro à Rinku et Sorav qui parlent en hindi. Voilà. Donc, franchement, ça confirme le fait qu'ils parlent en hindi. Ça confirme que c'est vraiment, j'ai l'impression de voir la même chose que les Authors of Pain. Hein. C'est deux gros barbares avec des grosses barbes qui sont typés d'un pays moins oriental et qui parlent dans leur langage avec un manager qui est un peu leur mospice, quoi. Et ce qui est dommage parce que bon, en Inde, la plupart des gens parlent anglais, hein, pour y avoir été, avoir passé quasiment 2 mois, la plupart des gens parlent anglais. Donc du coup, ouais, j'ai vraiment l'impression de voir un pastiche, une régurgitation du concept Authors of Pain. Est-ce que toi t'arrives à avoir un peu plus d'intérêt dans ce trio, ou parce que moi je suis pas du tout optimiste pour eux.
Ah bah t'as tout dit, quoi. C'est vraiment
c'est un
copier-coller des Authors of Pain. Et voilà, tu mets Ellering à la place de Malcolm Bivens, et puis voilà, l'affaire elle est faite, quoi.
Ouais.
Donc en plus je comprends pas, il s'attaque à un mec seul, c'est une tag team mais il s'attaque à un mec seul. Donc,
ouais, mais c'est le champion par équipe.
Ouais, oui, c'est vrai.
Donc, c'est vrai. Et comme il disait la semaine dernière, Eden, il est coincé en Angleterre, donc du coup, voilà, ils en profitent, c'est le bon moment. C'est des, ils en profitent quand il est seul, comme ça, ils peuvent bien le dominer, ça, pourquoi pas, quoi, ça passe. Donc, okay, en termes de concept, d'équipe, au moins, ça m'a... Ouais, ça monte une sans faire bouger l'autre, comme on dit.
Voilà, ouais. Et puis j'attends de voir un peu ce que vont donner les deux Golgoth dans le ring aussi. Hein, parce que c'est bien beau hein, qu'ils soient monstrueux, qu'ils soient grands et lourds, mais maintenant, voyons voir ce qu'ils valent in-ring.
Ouais, tout à fait. Et on n'aura pas leur début ce soir. Par contre, le début de Dexter Lumis, on va l'avoir, hein, et de sa victime du soir, Jack Atlas. Donc Dexter Lumis, on avait vu une petite vidéo promo la semaine dernière. Hein. Donc c'était Sébastien Shaw du côté de d'Impact. Hein. Donc un qui a un physique assez impressionnant, très baraqué, une coupe très rasée sur les côtés, une grosse moustache blonde et des yeux bleus glaciaires. Et il a la particularité, du moins de ce que nous vendent les commentateurs, de ne jamais signer les yeux. C'est vrai que dès qu'il entre dans le ring, il fixe sa victime en restant calme, donc une aura très inquiétante. Hein. Sa musique d'ailleurs sera très inquiétante aussi. Il porte des gants. Alors, Velveteen Dream durant son match portait aussi ses gants mauves de satin. Là, Dexter Lumis, celui-là, a des gants en cuir noir, un peu comme Dexter, le personnage de série Serial Killer, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, du coup, est-ce que c'est dans leur gimmick ou est-ce que c'est un geste barrière par rapport au Covid-19? On ne saura pas. Dans tous les cas, voilà, un match assez court où Dexter Lumis va se débarrasser de son adversaire du soir avec donc une soumission d'étranglement pour la victoire. Donc Lumis aussi glisse beaucoup sur le ring. J'ai remarqué un autre point commun avec Velveteen Dream, c'est pas que ses gants, c'est aussi le fait qu'il glisse beaucoup. À un moment donné, il va glisser du ring pour aller à l'extérieur, limite en rampant. C'était un peu chelou. Donc voilà, il a un concept un peu strange, ce Dexter Lumis en tout cas. Ouais, physique et une aura impressionnante. Est-ce que ça va suffire pour convaincre ça?
C'était un gros botch, hein, cette espèce de de glissade.
Ah, je sais même pas. Je sais même pas.
Ah
je,
bon
vu le sa façon, je pense que ça c'est dans le trip, quoi.
Ah ouais. Bah écoute, moi j'ai quasiment pris ça pour un botch, quoi.
D'accord.
Donc, je me suis vraiment demandé s'il avait, parce que je sais pas, le tapis du ring devait peut-être pas être assez glissant. Il y a eu une espèce de ralentissement sur sa glissade. Il a redonné un coup de rein au moment de la sortie pour tomber ringside. Et j'ai trouvé ça assez étrange. Alors effectivement, je le connaissais du temps où il était à la TNA, où il avait eu tout un run qui était pas trop mal, mais il est jamais monté plus haut. Et puis son finisher, c'est une espèce d'Anaconda Vice en réalité. Hein.
Ouais.
Et voilà, bon, un match qui aura été vraiment plié, puisque je crois que ça a duré moins de 4 minutes. Quoi.
Donc, ouais, c'est ça.
Donc vraiment. Donc c'est la présentation. Et Jack Atlas, je ne le connaissais pas. Donc, je sais pas si toi c'était ton cas, mais moi je le connaissais pas.
J'ai entendu son nom sur des trucs d'indie, voilà, parmi des gens un peu indépendants à suivre, qui avaient été signés par la WWE il y a quelques temps, mais j'ai pas du tout vu le match de Mr. Atlas par le passé. Je sais pas si on va le revoir ou il est juste là pour jobber. On verra bien. Ensuite, on a un petit vignette teaser encore pour Killer Cross, hein, avec sa Doomsday Clock, son horloge de l'apocalypse, apparemment avec la voix off qui serait celle de sa girlfriend en chef, Scarlett Bordeaux, puisque effectivement la semaine dernière, ça enchaîne directement avec le récap qu'on va avoir ensuite. Il y avait un segment avec Triple H qui était là pour régler une bonne fois pour toutes les comptes entre Gargano et Ciampa, et ils étaient interrompus en fin d'émission de façon un peu étrange. Par sur le titan tron, apparaît ces images et le visage de Killer Cross. On apprendra sur l'un ou sur l'autre, pas plus ce soir. On sait que le match qu'il y aura donc la semaine prochaine dans un immeuble désaffecté que Triple H va trouver pour l'occasion, eh bien le dernier match, hein, entre le Black Heart, le cœur noir, et le cœur rebelle, Rebel Heart, donc entre Ciampa et Gargano. Donc ça, il est intitulé One Final Beat, un dernier battement de cœur. Le match entre les deux, donc une dernière fois une confrontation. On ne saura pas plus ce soir qu'est-ce que Killer Cross vient foutre là-dedans. On ne saura pas plus que ce soir. Ce qu'est la stipulation ou les conséquences de ce match entre les deux, ça reste un mystère total.
Ouais. C'est vrai que ça, c'est assez bizarrement traité.
Mystérieux. Un mystère mystérieux, comme on dirait.
Voilà. Sur Killer Cross, moi, je suis vachement content de voir ce mec arriver à la WWE, parce que c'est un mec que j'ai regardé un peu à la TNA et que je trouvais vraiment impressionnant, quoi, qui a vraiment une gueule, quoi. Non seulement un physique, mais une gueule aussi, quoi. Et puis sa femme, quoi. Merde, sa femme, quoi. Il faut quand même le dire, hein. Donc écoute, moi je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire du Killer Cross.
Toi, t'es fan de Bordeaux?
De Scarlett Bordeaux?
Ouais.
Oh non, en toute honnêteté, je vais pas te dire que je suis fan, quoi. Ça serait mentir de dire ça. Disons que je la trouve attrayante physiquement. Mais sortie de ça, même si elle est maquillée à la truelle, quoi. Mais sortie de ça, bah, je vais vraiment pas vous dire que je kiffe Cascade de Bordeaux, parce que ça serait un monstre.
Ouais, pour ceux qui seraient pas familiers avec Impact, qui était assez genre reine de beauté, un peu dans le principe des divas, des heures pas les plus sombres d'histoire de WWE, mais pas loin. Donc c'est vrai que pour les gens qui aiment à NXT la division féminine, parce qu'effectivement on a des caractères, on a des quelque chose qui sont talentueuses, ce qui est à Bordeaux, c'est pas trop le profil, hein. C'est un peu plus les combats de polochon en bikini que les Iron Woman match, hein. Donc on verra entre-temps est-ce que peut-être avec le bon encadrement du Performance Center elle a su développer un site de catch plus technique, mais bon, ce que j'avais vu en tout cas à Impact à l'époque me laissait pas présager du très bon dans le ring. En parlant de division féminine, justement, on a ce fameux match gauntlet, hein, de la seconde chance, puisque donc on va avoir la semaine prochaine un match de l'échelle pour déterminer qui sera le first contender, la first contender pour le titre NXT, qui affrontera plus tard du coup soit Rhea Ripley, la championne actuelle, ou bien The Queen Charlotte Flair, le match qui aura lieu donc à WrestleMania. Donc le match commence avec Shotzi Blackheart et Diona Peruzzo. Diona Peruzzo qui est la virtuose des équations, visiblement, d'après son petit centron, hein, c'est un peu chelou cette histoire. Et donc Shotzi Blackheart va réussir à se défaire de Diona Peruzzo par une soumission. Rentre ensuite Xiali qui avait été mystérieusement agressée la semaine dernière et qui a permis donc du coup à Yoshirai de s'insérer dans toute cette histoire et de gagner sa place. Shotzi Blackheart va réussir aussi à se défaire de Xiali. Ensuite c'est Aliyah qui elle aussi bien sûr se fait battre très rapidement. Enfin Caden Carter qui avait son petit moment de gloire face à Asuka lundi dernier à Monday Night Raw. Shotzi Blackheart battra tous les pronostics puisqu'elle restera la dernière sur le ring, et c'est Dakota Kai qui arrivera en dernière adversaire de ce soir, avec du coup Raquel Gonzalez, hein, ses gros bras, et malgré une très belle performance de Shotzi Blackheart qui aura donné tout ce qu'elle avait pour s'en sortir suite à de différentes interventions et de distractions d'arbitre, c'est Dakota Kai qui ravit la dernière place dans ce match. Mais plus que ça, c'est quand même la performance de Blackheart, hein, qui restera en mémoire, je pense, de ce match. On est d'accord. D'ailleurs c'est normal, je trouve, qu'elle ait pêché celle-ci, parce que sa musique d'intro, on dirait franchement du Motorhead. Elle a les cheveux verts et d'habitude elle arrive sur un tank. Je veux dire, si ça crie pas Triple H dans tous les sens. Donc quoi, c'est normal qu'elle soit un peu la chouchou du patron, j'ai l'impression.
Ouais, un peu, ouais, c'est vrai, ouais. Mais n'empêche, un gauntlet match qui a duré quasiment 25 minutes. Là, les filles se sont données bien. Shotzi Blackheart, elle a une prise de soumission qui est bien crédible. Mais elle fait pas que ça, puisque pour battre Aliyah, par exemple, elle place une Fenton.
Oui.
Elle élimine Caden Carter après en avant-dernière. Et puis, fatalement, quand on voit Dakota Kai rentrer en dernière, on se dit que là, ça va être chaud pour Shotzi Blackheart, vu qu'elle a passé, quasiment 22 minutes sur le ring à ce moment-là.
Bien sûr.
Et qu'en plus, Dakota Kai arrive avec Raquel Gonzalez pour lui filer un coup de main par-dessus le marché. Donc, on se dit que la Néo-Zélandaise, il y a peu de chances que la victoire lui échappe, quoi. Mais c'est pas mal. Les filles ont fait plutôt une bonne performance sur ce combat.
Moi, je suis plus mitigé, hein. J'ai trouvé que c'est. Je trouve que le match, par certains segments, comme tu as dit, était assez long. On manquait clairement de fluidité et de percussion. Voilà. Après, même belle performance de Blackheart, et ça, l'histoire qu'on en raconte marche, hein. On veut ne la pêcher. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'elle a fait une belle performance et qu'elle a perdu avec les honneurs parce que, effectivement, Dakota Kai a triché et qu'elle a gagné clean contre les quatre précédents. Donc, clairement, c'est elle la vraie gagnante, hein, de ce match, même si c'est pas elle qui sera dans le combat à l'échelle. Elle est amenée à être pêchée sur le, dans la division féminine assez fort. Mais ouais, je trouvais que le match était, elle est un peu un ventre mou par certains moments qui n'étaient pas.
Ouais, ouais. Après, bon, moi, je t'avoue que moi, pour moi, Dakota Kai, elle me crispe un peu, quoi. Moi, je suis pas un grand fan de Dakota Kai, à vrai dire.
Non, je trouve que son heel turn est loupé. C'était bien orchestré par rapport à Tegan Nox et Tegan qui revenait de blessure. Fallait effectivement une rivalité un peu plus, un peu, on va dire, personnelle pour nous faire adhérer à son personnage. Et Dakota Kai, c'est pourquoi pas, son personnage est-elle un peu en perdition de babyface, c'est trop générique. Un heel turn peut être une bonne solution à ce moment-là. Mais c'est comme les antibiotiques, c'est pas forcément automatique. Là, Dakota Kai, en heel, ça marche pas. Et on a beau lui mettre effectivement une présence inquiétante et gros bras comme Raquel Gonzalez. Moi, j'accroche pas, ouais.
Non, bah moi non plus. Donc, et moi, j'espérais que Chosie Blackheart allait aller au bout, en fait. Mm-hmm. Donc, bon, même si j'avais peu d'espoir à partir du moment où j'ai vu Kai rentrer en dernière position.
Oui.
Mais bon, moi, voilà. En tout cas, moi, je suis pas un aficionado de la néo-zélandaise. Et, ouais. Et donc, du coup, écoute, Chosie Blackheart, à revoir. Mm-hmm.
C'est ça qui a suivi, en tout cas. Mais on verra la semaine prochaine. Donc, le match pour l'échelle, donc je rappelle les. Celles qui seront dans le match, donc on a bien sûr Dakota Kai qui s'est qualifiée ce soir en dernière chance, qui rejoint Tegan Nox, sa meilleure ennemie, Chelsea Green, Mia Yim, Yoshirai et Candice LeRae. Un petit prono sur les six là, qui la personne que t'aimerais gagner.
Ah bah si. Déjà, je trouve que le line-up est pas mal de ce ladder match. Moi, clairement, il n'y a pas photo, mais pour moi, c'est Yoshirai.
Ouais. Alors, autant je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien l'avoir. Et en plus, ce match à l'échelle, clairement, c'est une stipulation qui lui donne carte blanche pour montrer tout son talent insensé. Par contre, il est pour moi assez clair que qui que ce soit qui gagne ce match à l'échelle perdra contre Rhea Ripley ou peut-être Charlotte. Donc ça me ferait... Ouais, je suis pas du coup fan pour que ce soit Yoshirai qui aille au casse-pipe derrière, puisque j'aimerais bien la voir avec la ceinture, mon Yoshirai. Ce serait la deuxième fois qu'elle ferait un match pour le titre et je sais pas si elle aurait une troisième chance après. Donc...
Je suis moins pessimiste que toi. Je me dis que si jamais c'est Yoshirai qui gagne, quand même, vu la qualité incroyable de cette japonaise, il y aura peut-être quand même contest, quoi. Il faut voir.
Contest, c'est sûr, le match sera disputé, mais si Charlotte gagne, je vois pas Charlotte perdre juste après, première défense de titre contre Yoshirai, et si Rhea Ripley gagne contre Charlotte, je la vois pas perdre la ceinture tôt. Non, je vois un règne long pour l'autre, donc du coup, d'accord. On verra bien. En attendant, division presque cruiserweight, on peut dire, puisque c'est Kushida contre Joaquin Wild. Donc un petit match où les deux font preuve de bon esprit sportif, puisque Kushida demandera plusieurs fois à l'arbitre si Wild est OK durant différentes phases du match. Évidemment, c'est la superstar japonaise qui fait son armbar justement en fin de match en chopant Joaquin Wild en vol. Donc Joaquin Wild abandonnera, tapera. Et ce qui est intéressant dans ce match, plus que le match lui-même, c'est l'après-coup, puisque Joaquin Wild sera dans le parking, donc devant le Performance Center, en train d'être interviewé. Et puis une camionnette débarque de nulle part, freine bruyamment, comme ce qui est arrivé à Raul Mendoza il y a quelques semaines. Et bien, des hommes masqués avec des masques de luchador sortent, ouais, disent à Joaquin Wild, allez, maintenant tu montes. De suite, Joaquin qui fait OK, cool les mecs, cool. Et il se fait embarquer, la fourgonnette repart de plus belle. Tout le monde se pose la question, qui sont ces gens? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il y a derrière? Parce que moi, je sais.
Moi aussi, je sais. C'est le Dark Order, non?
Exactement, mais oui. C'est Brody. Il est malin, ce Brody. Sans fort chez All Elite Wrestling. Hein. Franchement, bravo les gars. Quoi. Wow. Mais moi, j'ai vu les mecs débarquer. Parce que j'ai fait non. J'attendais juste un Join the Dark Order.
Ah ouais, ça aurait été énorme, t'imagines quoi.
Même j'aurais trop aimé un plan dans NXT où tu vois les gens qui sont interviewés à l'intérieur et que tu vois dans le fond une affichette collée avec marqué vous en avez marre de perdre, Join the Dark Order, tu vois, ça. Le crossover de malade. Un peu comme John Moxley qui fait un coucou à la caméra de WWE Backstage. La semaine dernière, quoi.
Voilà. C'est ça, ouais.
Donc voilà, bon, serait de plaisanterie. Clairement, ce n'est pas Dark Order qui est derrière ça. Est-ce que la WWE fait un taquet à Dark Order qui fait des taquets à Vince McMahon chaque semaine, comme on va le voir dans la review de Dynamite qui va suivre? Donc c'est quoi cette histoire d'enlèvement des Cruiserweights, d'abord Raul Mendoza, maintenant Joaquin Wilde, ces deux superstars qui sont latines? Là on voit les gens, ils ont des masques de luchador. Est-ce que il y a une espèce de truc Ingo Bernables ou je ne sais quoi?
Ouais, ou est-ce qu'on est dans une préparation d'une Nuestra Familia là, quelque chose que moi je réclame depuis assez longtemps à la WWE en réalité.
Ouais.
J'espérais d'ailleurs avant le confinement, j'espérais un peu un rapprochement des différentes stars latino là avec Rey Mysterio, Andrade, Garza, Carrillo et compagnie. Voilà, peut-être qu'on se dirige vers un clan latino. Moi je serais assez favorable à ça. Mais bon, pour l'instant, on reste dans les spectatives. Il y a pas eu d'explication plus que ça. Et puis finalement, j'ai envie de te dire, Raul Mendoza comme Joaquin Wilde, c'est des mid-carders voire des low-carders. Donc on sait pas trop où ça nous mène ça.
Non.
Comme il y a pas eu d'explication plus que ça. Surtout qu'en plus, non seulement c'est des low-carders, mid-carders, mais en plus c'est des mecs, voilà, à chaque fois quand ils ont été kidnappés entre guillemets, c'était à chaque fois ils sortaient d'un match qu'ils avaient perdu. Donc c'est bizarre, ils kidnappent des mecs qui perdent quoi.
John Dark Order.
Voilà, c'est ça.
C'est exactement leur procès, mec quoi. C'est t'es un loser, rejoins-nous quoi.
Voilà, on est exactement dans ce délire là.
Ouais. Bref, on passe au main event of the evening, donc un match de titre pour la ceinture nord-américaine. Donc c'est le Limitless Keith Lee qui défend contre ses deux opposants du moment, Dominik Dijakovic et Damian Priest.
Yeah.
I want to live forever. Donc un match entre les trois. Hein, donc ouais, on connaît bien la dynamique depuis quelques semaines entre eux tous. Alors avant d'en venir au finish, toi qu'est-ce que t'as pensé du match comme ça, brut pour point? Je suis curieux de voir ton avis, pour voir si on se rejoint ou pas.
Écoute, j'ai trouvé ça pas mal parce que à la base, moi j'aime les trois. Donc j'avais déjà dit la semaine dernière, moi je suis fan des trois.
Je suis assez d'accord avec toi.
Et puis ton clone vocal, plus les mois passent à NXT, plus je le trouve bon. Voilà, Damien Priest, moi je trouve qu'il progresse semaine après semaine et il dépareille pas dans un match avec Dijakovic et Keith Lee quoi. Il y a eu pas mal de bons moves quoi, mais j'ai trouvé que le match s'essoufflait au bout d'un moment, mais je pense que c'est largement dû au fait de l'absence du public. Je pense que là le même triple threat avec un public, je pense.
À Takeover, comme c'était prévu. Ils ont mis le logo Takeover hein, sur le petit entrant pendant le match, puisque ça fait partie des matchs qu'on aurait dû avoir au Takeover tant pas. Et donc, ils avaient annoncé, comme on vous disait la semaine dernière dans la précédente émission, que ces matchs auraient lieu, donc, durant NXT TV. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, c'est pour ça que je voulais pas être d'une influence quelconque, mais moi, j'ai été un peu déçu. J'attendais beaucoup de ce match entre les trois. Je suis gros fan des différents matchs qu'il y a eu entre Dijakovic et Keith Lee. J'aime bien effectivement aussi Damien Priest dans le ring. Et là, je trouvais que c'était pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais. Je trouvais Keith Lee qui manquait de patate, d'énergie, qui manquait de vitesse par rapport à d'habitude. Il n'y avait pas ces explosions où d'un coup il passe à cinquième vitesse et il fait des trucs de fou. Il y avait aussi beaucoup de temps perdu sur les mises en place dans des spots où il y en a un qui était sur la troisième corde et l'autre le rejoint pour faire une espèce de Tower of Doom ou de... Je sais pas, ça prenait du temps, c'était un peu mou, c'était un peu chelou. Au final, ce qui se passe, c'est que gavé de pas arriver à avoir la victoire, Damien Priest récupère sa matraque télescopique hein, et rentre dans le ring. Il y a Bull Arbitre qui veut lui dire « Ouais, arrête, fais pas le con ». Bah, c'est une triple frite, arbitre, donc pas de disqualification, je fais ce que je veux. Damien Priest va pour frapper Dijakovic avec, Dijakovic esquive, place son Fissure Eyes, sauf que du coup, au lieu de rencontrer la mâchoire de Damien Priest, eh bien le genou de Dijakovic rencontre eh bien la matraque télescopique, donc il y a très mal. Kisti se relève, envoie Vadinguer, donc c'est Priest hors du ring. Donc, comme il avait fait Adam Cole il y a plusieurs mois, qui était devenu un meme d'Internet. Et donc, suite à ça, Keith Lee passe son Big Bang catastrophique sur Dijakovic et conserve le titre nord-américain et on voit les deux adversaires qui ont les boules pendant que Kissy est bien content de closer le show avec sa ceinture. Mais ouais, pareil que toi, j'ai trouvé que c'était pas le match que j'attendais de défense. C'est triste.
Un match qui s'est essoufflé en fait au bout de quelques minutes, quoi. Un match
très vite, hein.
Qui a perdu dans l'intensité, qui a voilà quoi, c'était vraiment décevant. Je pense vraiment que c'est lié à l'absence de public, parce que je pense que le même match dans des circonstances classiques, on aurait été emballé et un match qui aurait pu terminer en 4 étoiles. Et là, pour le coup, ouais, ça a fait un petit peu pchit.
Ouais, la performance des trois à prendre en compte, hein, c'est pas le manque du public, c'est aussi trouvé. Moi, je m'attendais à ce que ce soit cette semaine le match de catch qui en termes de catch pur, soit le plus qui m'intéresse le plus ou qui me plaise le plus, et ben non. Donc, ouais. Donc voilà. Et ben tant pis pour cette première prestation. Alors peut-être qu'on aura droit à un autre match entre les trois, et j'espère que ce soit au niveau de ce qu'ils peuvent donner. Mais c'était tout pour cette semaine de NXT. Gros programme hein, pour les semaines à venir qui nous ont été annoncées. On verra bien, a priori, encore une fois, la situation actuelle. A priori, la WWE a tourné plein de trucs. Donc, ils ont dû, je pense, tourner plein de choses pour les prochains NXT, puisque là, de ce que j'ai vu, vu une petite situation, un petit bulletin météo coronavirus, l'État de Floride a annoncé que tout le monde reste chez soi. Hein.
Oui.
Ils ont annoncé ça pour une durée de 30 jours, il me semble.
Et l'État de Floride a annoncé qu'il interdisait tout événementiel, etc., toute organisation sportive ou quoi que ce soit, à compter du 8 avril. Donc, ce qui signifierait que la WWE n'aurait même plus le droit de faire des enregistrements d'ici là. Donc, j'imagine qu'ils vont se précipiter là jusqu'au 8 avril pour faire un max d'enregistrements. Ouais. Mais du coup, fans de catch, il va falloir vous préparer à une pause.
Ouais, une disette.
Eh oui.
On verra bien ce que sera notre avenir dans quelques semaines, en tous les cas. Du côté de All Elite Wrestling et de Dynamite, eh bien, écoute, ça va vachement mieux que la semaine dernière. Hein, puisque pour la faire courte, la semaine dernière, on n'avait personne autour du ring. Deux semaines avant, ils avaient eu l'excellente idée de mettre plein de catcheurs autour du ring. Ça avait créé une ambiance un peu moins morne et moins lugubre et moins triste que à NXT, à Raw et à SmackDown. Donc, on était un peu déçus la semaine dernière de voir qu'ils pouvaient plus le faire. Mais là, ils ont décidé de changer de crèmerie. Ils sont plus à Jacksonville. Ils ont bougé quelque part. On ne sait pas où. J'ai trouvé nulle part l'information d'où a été tournée. Enfin, c'était live d'ailleurs, hein, d'où a été effectivement fait le Dynamite d'hier. Ils sont dans un hangar qui a été aménagé avec le ring, avec des barrières, un petit entron, leur LED et leur setting de stage habituel. Mais on ne sait pas où. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé un coin pour tourner ça où les régulations actuelles leur permettent de pouvoir à nouveau avoir autour du ring des catcheurs? Parce que cette semaine, on avait le retour, on avait une dizaine de personnes qui étaient tout le temps durant l'émission autour du ring, avec des interactions comme on a vu il y a deux semaines. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien?
Oh oui. Oh oui.
C'est clair. Donc du coup, on commence par Tony Schiavone, hein, qui sera aux commentaires ce soir avec Cody Rhodes pour la première partie du show. Et pour la seconde partie du show, il sera rejoint par Colt Cabana. Et là, franchement, on en parlait tout à l'heure avec Sam Roberts, hein, que j'ai pas, avec toi non plus, on n'a pas trouvé ni intéressant ni très plaisant aux commentaires. Là, le fait d'avoir Tony Schiavone avec Cody puis Colt Cabana, c'était du pur bonheur, quoi, parce que Cody au micro, aux commentaires, je trouve qu'il commente bien sur le côté prise et descriptif de ce qui se passe dans le ring et histoire, storytelling, il est vraiment bon. Et Code Cabana est fun en fait, donc du coup ça marchait.
Ouais, là ça fonctionnait complètement aux commentaires. Là, on était dans une autre situation qu'un. C'est une évidence.
Ouais. En termes de match, on commence aussi assez fort côté de l'OTW. On a donc Kenny Omega contre Trent, des best friends. Et là aussi, un match long, hein, 20 minutes. Ils avaient une time limit de 20 minutes. Et quand le match se termine, eh bien, c'était Dasha qui était en ring annonceur ce soir et pas Bandy Rhodes. Eh bien, elle annonçait qu'il restait plus qu'une minute le moment où Kenny Omega finit par réussir à placer son V-Trigger suivi de son One Wing Angel. Donc, grosse performance de Trent, qui a été booké assez fort dans le match, puisque du coup, on aurait pu imaginer que Kenny Omega s'en défasse plus rapidement que ça. Mais voilà, on nous a un peu raconté l'histoire que Kenny Omega se perd un petit peu en extérieur de ring, commence un peu à parler tout seul et à faire ressortir une espèce d'agressivité ou autre, qui fait qu'il n'était pas si focus que ça. On nous vend aussi encore, bien sûr, sa blessure au poignet qu'il avait dans le plat il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tout ceci aboutit à un beau show de Sport Banshee entre les deux, et surtout une belle paire de Trent qu'on retiendra, qui a tenu très longtemps face à Kenny Omega. En tout cas, moi, je trouvais un match opener très solide.
Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match. J'ai trouvé que c'était, techniquement, c'était super propre. Mmh. Et avec des mecs en pas simple, parce qu'un alignement de gars tous les deux face, mais ils nous ont vraiment livré la marchandise. Vraiment, techniquement, c'était propre. J'ai eu un peu peur pour Omega quand Trent lui a passé son avalanche German suplex là. Ouais. Je me suis demandé même si Omega s'était pas blessé. Ça m'a paru limite cette affaire, parce que Aubrey Edwards est venu à partir de ce moment-là, est venu régulièrement parler dans l'oreille de Omega. Et effectivement, j'ai eu une légère inquiétude pour le Canadien, quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est un opener de qualité. Et puis, comme tu l'as dit dès le début, le fait d'avoir quelques catcheurs et catcheuses autour du ring, tout de suite, ça a donné de l'ambiance, tout de suite, ça a mis un peu de vie autour du ring, dans la salle, et ça change quand même largement les choses.
Hein. Ah, mais grave, du côté des DFS, il y avait le Gun Club. Gun et son frère étaient des fanboys qui étaient Kenny, the elite, et pareil, ça remplace pas 10 000 personnes, mais ça fait le job. Et du côté des heels, il y avait quelques heels comme Kip Sabian, Penelope Ford, il y avait aussi Britt Baker, etc., et Jimmy Havoc, et les heels, je sais pas si vous remarquez, ils étaient tous espacés de 1 mètre, 1m50, comme s'ils respectaient et c'était drôle, je trouvais, parce que du coup, de la part des heels, c'était inattendu. Alors que les face, Billy Gunn et son fils, ils étaient limite bras dessus. De l'autre côté, ils étaient bien rangés. Jimmy Havoc, à un moment donné, qui sort dans le show, une clé d'outillage de bricolage, qui tend ça plus tard dans le show, je crois que c'est Sammy Guevara ou un heel, genre tiens, vas-y, va l'utiliser. Enfin, il y avait encore une fois plein de petites interactions qui étaient assez fun et bienvenues, et qui mettaient de la vie là où on en a besoin.
Fun. C'était agréable d'avoir Penelope en bord de ring. D'ailleurs, je lui ai rendu hommage sur Twitter pour annoncer notre enregistrement de la baston du mercredi #3, je l'ai illustré avec une image de Penelope qui ira faire un tour sur Twitter.
Ah bah oui, j'irai voir ça. Très bien. Parfait. D'ailleurs, oui, suivez-nous sur Twitter si vous voulez tenir au courant tout ça. On enchaîne avec donc des visions féminines. Une petite vidéo pour nous vanter les mérites de la First One Contender, celle qui est rankée numéro 1, donc Hikaru Shida, et qui s'ensuit un match contre Anna Jay, qu'on n'a jamais vu ici, qui est apparemment une élève de la Nightmare Factory, donc de l'école de catch d'Atlanta en Georgie, de la famille Rhodes. Donc voilà un match qui sera pas méga long, mais qui n'est pas non plus un squash, où sans surprise Hikaru Shida va prévaloir sur son adversaire. Post-match, eh bien du coup, on vous l'a dit, il y avait Britt Baker qui était aux abords de ring, Britt Baker qui fera différentes interventions vocales uniquement durant le match. On verra, la caméra se focusera sur elle et on verra qu'elle est en train de bouffer un sandwich, genre je n'ai rien à foutre de ce qui se passe. Hikaru Shida le prendra mal, Hikaru Shida mettra un coup de pied dans la barricade là où il y a Britt Baker qui lui hurlera va-t'en à plus d'un mètre, respecte les distances de sécurité, et la menacera de son escarpin. Elle aura son escarpin en main. Donc voilà, Britt Baker qui est toujours dans son rôle de heel très chippy, on va dire. Très bien vendu par Tony Schiavone, au commentaire qui fait le job. Donc voilà, tout ça pour nous amener peut-être un match entre les deux. Donc voilà, encore ce petit genre de petite interaction qu'on a qui mange pas trop de pain, de toute façon, c'est le cas de dire, mais qui crée un petit peu des petites storylines peut-être qui seront exploitées pour des matchs futurs. Qui sait?
Un match de 5 minutes, qui a été relativement expédié, mais le coup, Shida fait. Et pour moi, la meilleure catcheuse de la division féminine à l'heure actuelle à la AEW. qui est quand même la grosse faiblesse de la All Elite Wrestling à l'heure actuelle, c'est la division féminine.
Oui, ça c'est clair.
Et pour le coup, Shida me plaît bien. Elle a un beau moveset. Elle est expressive et j'aimerais bien la voir avec le titre. Et j'aime bon Britt Baker, moi c'est pas trop ma cam. Mais Shida en l'occurrence oui, et j'aimerais l'avoir avec la ceinture autour de la taille pour voir un peu quel genre de règne elle serait capable de nous offrir.
Mais moi j'aimerais bien l'avoir avec un micro surtout avant.
Ah oui
parce aussi. Elle sait parler anglais.
Oui c'est ça. Micro. C'est rare en fait, c'est les japonaises ça. Donc
ouais.
C'est rare d'avoir une japonaise qui maîtrise l'anglais. Et donc c'est vrai que t'as tout à fait raison. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage que jusqu'à présent elle ait quasiment jamais eu le micro entre les mains quoi.
Je pense que encore une fois ils savent pas trop encore développer de storyline efficace de la division féminine, donc du coup ils savent pas trop quoi lui faire dire peut-être, ou je sais pas, c'est un peu compliqué cette histoire. Enfin voilà, on verra si ces temps de réflexion du confinement les amènent à trouver des pistes intéressantes. En tout cas faut qu'ils tentent des choses avec la division féminine pour effectivement essayer de la faire décoller, parce que pour l'instant on a quelques matchs comme celui-ci qui sont pas désagréables mais qui sont pas en tout cas captivants, hein. À la fin de l'émission c'est clairement pas ça que tu retiens.
Non.
non. On a ensuite une vidéo qui nous parle de la future confrontation entre John Moxley, le champion, contre Jake Hager. Cette collision qu'on nous annonce pour dans 2 semaines, puisque dans 2 semaines, on aura donc un match, un No Holds Barred match en arène vide, hein, entre les deux pour le titre. Donc, il part pas tant, hein, du côté de All Elite Wrestling. On aura un match de titre suprême dans 2 semaines. Donc, on a une vidéo qui va nous être montrée où John Moxley fera du coup son personnage de « Ok, les gens veulent prendre ma ceinture, c'est normal, j'en ai rien à foutre, c'est le job, mais je suis un fou furieux dans ma tête, je vais tous les fumer. De son côté, Jack Hager fera un peu la brute en disant « C'est bon, j'ai John Moxley en main, je sais que c'est un homme qui est en dessous de moi et je peux le dominer, maîtriser comme j'ai dominé les gens en MMA. » Chris Jericho qui fera job en disant qu'il est tout à fait pour que Jack Hager aille chercher le titre et le récupère, puisque de toute façon, du côté d'Inner Circle, on est une vraie famille, hein, on se tape pas dessus, on vole pas les finishers des uns des autres, on pique pas au boulot, donc s'il gagne le championnat, c'est très cool. On aura 2 champions au sein d'Inner Circle, et ça c'est parfait, et ce que confirmera Sammy Guevara un peu plus tard. Donc du coup là, gros match de titre dans 2 semaines. Alors, est-ce que Jack Hager a une chance de l'emporter face à John Moxley pour une victoire complètement surprise, ou c'est déjà plié d'avance et on sait que John Moxley gardera le titre?
Moi, je fais partie de la team plié d'avance, quoi.
Ouais.
Pour moi, il n'y a aucun suspense dans cet affrontement-là, quoi. Donc, surtout que Hager claironne partout sur les réseaux sociaux, etc., de ses prochains matchs à venir en MMA. Donc je vois pas comment c'est possible à aucun moment qu'ils prennent le titre, quoi. Ce qui était bien dans tout ce package, c'était le fait de rappeler que Moxley, il a une cible dans le dos avec la ceinture, et que du coup de toute façon après Hager, il y a encore du monde qui fait la queue pour venir l'affronter, et donc ça c'est plutôt pas mal. Il va y avoir de la compétition par rapport au titre suprême, et ça c'est une bonne chose. Mais bon, en tout cas, sur l'affrontement dit entre Hager et Moxley, pas une seule seconde, je n'imagine Moxley perdre son titre.
Ouais, je suis assez d'accord, du moins pas de suite, ça serait trop. Moxley
puis,
trop une grosse star pour la perdre de suite.
Ouais, et puis c'est ce que je t'ai dit au début, c'est je trouve que c'est mal géré par la IW, ça, parce que Hager, ouais, il claironne trop partout qu'il va avoir son prochain match de MMA, etc. Donc tu vois, j'ai du mal à imaginer qu'on lui colle la ceinture sur les hanches alors que le mec, il est en pleine préparation pour un match dans l'octogone, quoi. Ça paraîtrait pas très très logique, quoi. Mais bon.
Ouais, mais on a déjà eu des précédents avec Lesnar.
Oui, c'est sûr. Mais là, franchement, dans les circonstances actuelles, j'ai du mal à imaginer ça.
Ouais, je te rejoins sur la globalité, même si ça me gêne moins. Hein, je suis pas traumatisé là-dessus. Le catch est dans son propre univers.
Ah, je t'entends plus, mon amiral.
Oui, voilà, allô.
Ouais, je t'avais perdu. Voilà, t'es revenu.
Oui, il y a des perturbations sur la ligne. Je me fais attaquer par les troupes Xenos. ou alors peut-être que c'est Snake Roberts, hein, qui essaie de pirater ma ligne, hein, pour faire passer un de ses messages vidéo et de ses promos dont il a le secret, puisque juste ensuite, c'est ce qui se passe. On a une vidéo de Jake Roberts face caméra, qui dira qu'effectivement son client, donc Ben Starcher, hein, The Mother Hawk, vient pour détruire tout ce que AEW va lui envoyer. Voilà, AEW, vous jouez à des jeux, c'est pas très malin parce que nous on joue pas. Peut-être que Cody il est plus malin que ce qu'il pensait, et peut-être qu'il a peur de Jack de Snake Roberts et de Lance Archer, ou peut-être que c'est Brandry en fait, hein, Brandy Rose qui lui dit de ne pas aller affronter Lance Archer dans le ring, puisqu'on dirait que c'est plutôt elle qui porte le pantalon dans le couple et pas Cody.
Ah, on a des problèmes de son aujourd'hui. Ah, voilà.
Voilà, donc Lance Archer qui va pulvériser son adversaire du soir, à savoir le petit Marco Stunt, qui va se faire balancer dans tous les sens jusqu'à la fin du match, où il va se faire balancer de l'autre côté de la barricade sur Orange Cassidy et Chuck Taylor, qui étaient là pour regarder le match. Donc voilà, un match assez rapide, hein, où Marco Stunt aura le temps d'une offense, mais qui ne fera même pas trembler ou vaciller Lance Archer, qui mangera au petit déjeuner Marco Stunt, sachant que Lance Archer du coup est dans la course pour le titre TNT, puisque effectivement la All Elite Wrestling a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient mettre en place une ceinture mid-carder, hein, un peu l'équivalent du TV Champion, appelé donc TNT Championship, puisque TNT est le nom de la chaîne. Et donc, on a un championnat qui va se dérouler dans les semaines suivantes. On va avoir 4 matchs, incluant 8 bonhommes. Donc, on a la carte, hein, de ce championnat. Donc, d'un côté, on a Sean Spears qui affrontera Cody. Dans le même côté de la carte, on a Sammy Guevara qui affrontera Darby Allin. Et de l'autre côté du tournoi, on a Kip Sabian contre Dustin Rhodes, The Natural. Et donc, Lance Archer qui affrontera Colt Cabana, qui est au commentaire ce soir. Donc voilà pour ce championnat, pour cette nouvelle ceinture. Lance Archer, grosse domination ce soir. Bon, attendu face à un adversaire qui faisait 2 fois moins sa taille que lui. Est-ce que Lance Archer, tu le vois gagner ce championnat, être le premier TNT champion, ou non, il va rencontrer un obstacle sur son chemin?
Eh ben, écoute, moi j'ai été vachement impressionné par Archer, que je ne connais que très très peu. Vraiment très peu, je connais vraiment pas beaucoup ce catcheur là. Moi j'ai été hyper impressionné. Bon, ça a été d'autant plus accentué par le fait qu'il était face à Stunt, quoi, qui est un microbe. Et vraiment la destruction de Stunt pendant 4 minutes, ça a dû être long, ces 4 minutes pour Stunt, quoi. Ça a dû être très long. Et puis en plus, pas de chance pour lui, les Jurassic Express n'étaient pas présents. Mon bon Luchasaurus qui lui aurait eu du répondant face à Archer, je pense.
Ouais.
Mais pour moi, je reconnais que je suis très impressionné par Lance Archer. Vraiment physiquement, la gueule, le look, son finisher là, son blackout là, qui est bien 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 costaud. Et puis il était en mode destruction de partout, quoi, parce que quand il attrape Stunt là sur la prone et qu'il le balance sur Cassidy, Gunn et compagnie là, Et vraiment, j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur Lance Archer, parce que pour le coup, moi, c'est un type que je découvre là.
Ouais, Lance Archer, si vous voulez voir un peu ce qu'il a. Il a fait partie du Suzuki Goon, qui est une des grosses factions. Il a des gros salopards qui frichent tout le temps, qui sont à 15 autour du ring pour intervenir durant les matchs. Et donc lui, plus particulièrement, il faisait partie du Killer Elite Squad, qui était une tag team. Donc il a été champion tag team du côté du Japon, avec David Boy Smith Jr.
Ah, ok.
C'est la WWE. Donc voilà, un Killer Elite Squad, hein, ça montre bien la thématique de la tag team. Donc très dans la destruction, très dans le cash très stiff et très... est très violent. Et ensuite, il a eu un petit run solo où il a été il était en rivalité contre Moxley, justement, pour la ceinture américaine du côté de Japan. Voilà. Donc vous pouvez aller voir les matchs. Moi, c'est, j'ai pas trop vu dans son run solo, c'est surtout dans son run par équipe, hein, avec donc le Kirby et les squads que je l'ai vu. Et là, c'est clair que dans le paysage de la Haute Elite Wrestling, hein, qui comporte pas tant de big guys que ça, forcément, il arrive dans le haut de la carte, hein, avec les Chazorus justement, avec les Jack Hager, donc et les Brodzidi. Donc voilà, ça fait un gros costaud qui débarque.
Ouais.
Et d'ailleurs, je verrais bien un match contre le Chazorus. Ça ferait sens, hein, après le sévice qu'il a infligé à Marco Stunt, ça serait normal que les Chazorus viennent venger son petit copain. Là.
Quel massacre.
Ouais. Sachant que quand il arrive, l'Uncharter, il n'est même pas grimpé dans le ring, qu'il a déjà étalé un mec des caméras sur son chemin.
Oui.
L'autre caméra n'a même pas eu le temps de filmer ça, on a juste eu le temps de voir le mec s'allonger par terre. Donc voilà.
Ah, il est super impressionnant, hein. J'ai vu quoi. Ouais. Il fait 6 pieds 7, il doit être à 130, 140 kilos, c'est un sacré mastar, quoi.
C'est clair. Et du coup, je trouve intéressant dans ce paysage où il y a plus des gars d'un profil, d'un gabarit comme Cody ou Trent ou Kenny Omega, d'avoir des gens comme Lance Archer ou comme Brodzidi qui de suite ont l'air ultra monstrueux parce que bah du coup il y a une différence de gabarit, quoi.
Ouais,
on n'est pas obligé d'avoir un Strowman ou un Lesnar pour avoir des gros costauds, quoi. C'est une question de perception, en fait.
Ouais. Et en plus, c'était un de mes reproches à la Holy Wrestling, c'est que ça manquait de powerhouse.
Mm-hmm.
Et petit à petit, là, ils sont en train de s'équiper, là.
Ah, c'est clair.
Donc là, l'arrivée de Lance Archer est pour le coup une bonne nouvelle, celle de Brodie aussi. Donc, je pense que là, ça y est, là, ils commencent un peu à. Et ça, on va dire que dans la catégorie super heavyweight, ça commence à muscler son jeu à la All Elite.
Parlant de Brodie, justement, on passe à une réunion, puisqu'il tient des réunions, Brodie, hein. Donc là, c'est pas au restaurant en train de manger des steaks, mais plus en train de faire une réunion autour de table avec un écran derrière, mais un écran qui passera que de la neige télévisuelle. Et donc, du coup, des gens du Dark Order qui sont autour, qui l'écoutent. Donc, il est toujours en costard avec sa cravate. Et donc, du coup, il fera une promo où il parlera à ses mignons. Il y en a un qui lui dira « Merci, Monsieur Lee ». Et là, Brody reprendra et dira « Non, c'est Monsieur Brody ». Là, tu diras « Pardon, Exalted One, pardon ». Voilà, donc il est énervé, il veut qu'on l'appelle précisément Mr. Brody. Et là, il y a un autre mignon qui baille.
Ah ouais,
et là, ça fait ça la connerie. Bah oui, c'est comme quand t'éternues, il faut pas. Donc là, Brody Lee s'assoit à côté de lui dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui peut te fatiguer? Il y a rien qui doit te fatiguer. Bailler, c'est montrer sa faiblesse, et on peut pas avoir la faiblesse ici, donc casse-toi. Et l'autre, il se casse. Donc là, encore une crise d'autorité de Brody Lee sur les gens du Dark Order. S'ensuit à ça, donc un match Dark Order contre les Natural Nightmares. Donc, Natural Nightmares, c'est Dustin Rhodes et donc Cutie Marshall, accompagné de Brandi Rhodes, contre eh bien deux mignons de Dark Order qui ont juste deux numéros. C'est numéro 8 et numéro 9 de Dark Order.
Ouais.
Donc des gens, on sait pas qui c'est, hein, ils sont sous les masques Dark Order. Et très rapidement, Natural Nightmares gagne contre Dark Order, débarque sur ses entrefaits Brodzidi. Natural Nightmares le regarde, Brandi leur dit non, on s'écarte, il a l'air un peu taré ce mec-là. Et donc Brody Lee rentre dans le ring et tout simplement fait une grosse powerbomb sur l'un des mignons, c'était numéro 8, numéro 9, on sait pas et on s'en fout. Il regardera l'autre et puis s'en ira. Donc il vient punir la défaite. Donc voilà, Brody Lee, un chef de faction qui ne tolère pas l'échec, qui ne tolère pas qu'on baille, qui ne tolère pas qu'on éternue, qui ne tolère pas qu'on l'appelle pas par le bon nom, qui ne tolère pas qu'on mange quand il a pas commencé. Encore une fois, des piques à Vince McMahon.
J'en pense que vous aviez, toi et Ringside, la semaine dernière, vous aviez fait une parfaite analyse. Et effectivement, là, on est avec le personnage de Brody Lee, on est exactement là dans l'attaque sous-jacente du Vince McMahon. Et voilà, sauf que le bâillement a remplacé l'éternuement. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est très drôle. Je n'ai plus quand j'ai vu ce segment, je n'ai plus que pensé à toi et à Ringside. Et je me suis dit, les deux gars, ils avaient raison depuis le début.
Et là, pour le bâillement, j'ai pas l'anecdote exacte à quoi ça fait référence. Mais je pense que c'est une évocation à ça. Quand à la WWE, ils ont embauché récemment Paul Heyman et Eric Bischoff pour gérer d'un côté Raw et d'un côté SmackDown. Eric Bischoff, il est pas resté longtemps, il a même quasiment rien fait, hein.
Ah ouais.
Et avant d'avoir, mais il avait quand même recruté des gens, notamment il avait recruté quelqu'un, qui était un scénariste de télé, qui avait bossé, je crois, sur, Sons of Anarchy. Ok.
D'accord.
Et lors d'une des premières réunions de prod sur SmackDown, où il y avait Bischoff, où il y avait ce mec-là, et du coup, la top card de la WWE, notamment, du coup, Vince, le scénariste de Sons of Anarchy s'est quasiment endormi pendant la réunion.
Oh,
et ça a eu il y a eu forcément un backlash backstage qui a fait parler sur Leadersheet, où du coup voilà ça a fait parler tout le monde et les gens étaient énervés par rapport à ça parce que c'est un manque de respect compagnie, et notamment Vince, ça lui a pas du tout plu que le mec baille et s'endorme durant la réunion. Et je pense que là cette séquence c'est en référence à ça. Peut-être je vois des références, il y en a pas, mais ça me m'étonnerait pas.
Ouais, ça y ressemble fort en tout cas.
Carrément. Donc voilà, encore des jabs hein, directement à Vince. Pas du tout l'histoire du côté de la WWE. Hein. Pas encore une fois sur les sites de news. De multiples reports comme quoi ça fait grincer des dents. Donc je pense qu'ils sont pas prêts de s'arrêter du côté de la All Elite et avec Brody de faire ce genre de truc. Donc hein, surtout que Brody a l'air d'en avoir un paquet d'histoires. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'excellent podcast Talk Jericho, donc le podcast de Jericho, qui date de la semaine dernière, où son invité, c'est Brody Lee, et Brody Lee vide son sac, mais pendant une heure et demie, c'est un festival, quoi. Donc, il raconte tout comment c'est passé, ses ruptures de contrat, comment ils ont essayé de le garder, etc., comment il peut pitcher ses idées à Vince, qu'on n'a rien à foutre, enfin, voilà. Allez écouter ça, si ça vous intéresse, c'est plutôt pas mal.
Ouais, juste pour le détail, dans ce fameux, fameux podcast, Brody Lee explique que Vince McMahon voulait absolument qu'il ait un accent d'un gueux du sud des États-Unis,
ouais.
Alors que lui, il est originaire de Rochester à New York, et que donc il parle un anglais châtié, on va dire, et que lui il comprenait pas d'être traité de cette manière-là. Et effectivement, il tartine comme il faut sur la WWE, l'ami Brody Lee.
Ah, c'est clair. En parlant de Jericho, c'est à lui maintenant, c'est à le champion. Et on voit une vidéo qui est tournée depuis le
palais château. Le palais du le champion. Voilà.
C'est ça, le palais du le champion, pas du champ, du le champion. donc il est là avec une baraque. Il est dans sa piscine, ses lunettes, avec une petite bouteille de bubbly. Donc voilà, il boit du bubbly, et donc il dit que voilà, c'est aujourd'hui c'est une fête, hein, c'est le 1er avril, donc la fête des blagues. Et il a jamais vu des guignols autant que The Elite. Donc voilà, il trash talk un peu tout le monde. Puis il parle donc de Matt Hardy, et là arrive du ciel Vanguard One. Donc il y a Vanguard One qui se pose pas loin de la piscine de Jericho qui, comme la semaine dernière, lui parle. Donc Jericho lui dit ouais, je voulais accuser. Enfin, il a du mal à dire je m'excuse, mais voilà, j'ai eu des mots, des paroles un peu méchantes à ton encontre la semaine dernière, et j'aurais pas dû. Et je te veux toujours au sein de l'Inner Circle. Regarde ce que j'ai pour toi. Et là Jericho sort de la piscine. Il est en pantalon d'ailleurs, c'est la piscine, il est en jean. Hein, et il sort un petit t-shirt du Inner Circle, mais une taille bébé, posé sur un cintre, ouais, pour Vanguard One.
Ouais.
Et il accroche avec le cintre le t-shirt sur Vanguard One, et il fait, alors, c'est bon, hein, t'acceptes, dis, t'es avec nous. Et là, Vanguard One s'envole, et Jericho, il en ras-le-bol parce que t'as volé mon t-shirt. Et il dit, relâchez les molosses. Et là, on a un plan sur 5-6 chiens. Des moyens, mais surtout des petits, quoi. Genre le chien Belmondo, quoi. C'est le petit chien tout pourri, où tu sais pas où le cucu ou la tête, t'en sais rien. Et t'as un plan comique où Jericho court après Vanguard One et ses petits kleps de grand-mère en jetant sa bouteille de champagne comme si de rien n'était par terre. Et Vanguard One qui s'en va très loin. C'était génial. J'ai trouvé ça génial.
C'était nawakesque. C'était série Z. J'ai trouvé génial Chris Jericho dans son jacuzzi en pantalon.
Ouais.
Franchement, ça m'a trop fait poiler. J'ai trouvé ça, mais totalement over too much et ça m'a fait marrer, quoi.
Ouais.
Voilà. C'était vraiment, voilà, le coup du t-shirt. Comme tu l'as dit, les chiens qui sortent, les shih tzus, les tout ce que tu veux, là. Les clébards à la poursuite du drone. C'était à la poursuite du clone, du drone, pardon. Et c'était poilant, c'était n'importe quoi.
C'était fun.
Ouais, c'était juste du fun et juste de juste de la poilade. Ouais. Alors là, voilà, bien évidemment, hein, c'est le genre de truc qu'il faut prendre, mais au 12e degré, quoi. Et, mais vraiment, j'ai trouvé, je sentais que Jericho se marrait bien à filmer ça. Et moi, c'est tout totalement bien passé auprès de moi, quoi.
Ouais, c'est clair. Le fun, c'est un bon élément du catch. Et surtout en ce moment, on a besoin de rigoler. Donc,
ouais.
C'était le bienvenu.
Ouais, ouais.
C'était le bienvenu. Autre bonne nouvelle. Nick Jackson, bientôt guéri. Pas encore, mais bientôt. On a une petite vidéo, donc, des Young Bucks qui s'entraînent dans un ring pour un peu dépoussiérer Nick qui est out depuis sa blessure. Donc voilà, petite séquence pas très longue qui donnera effectivement deux informations. La première, c'est que ben, il n'est pas encore prêt à retourner dans le ring maintenant. Il faut encore un peu de temps pour qu'il guérisse. Et la deuxième info, peut-être plus intéressante, c'est qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé lors de son agression, hein, puisque pour rappel, il y a quelques semaines, l'Inner Circle avait montré Nick Jackson qui était à côté d'eux avec le rideau en fer sur la gueule avec du sang qui coule de la bouche, qui montre effectivement un traumatisme. Et Nick Jackson qui dit « Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai aucun souvenir, etc. » Et donc du coup, ça lève une question. Est-ce que c'est le Inner Circle qui l'a agressé ou c'est quelqu'un d'autre? D'après toi, enquêteur, tonton Chris.
Ouais, je sais pas, j'hésite quand même, quoi, mais pour moi, quand même, l'évidence, que ça soit l'Inner Circle, au vu de la feud qui oppose l'Inner Circle et The Elite. Mmh. Donc, je vais rester plutôt sur la probabilité que ça soit l'Inner Circle qui l'agresse. Moi, j'ai relevé surtout que, bah, chez les Jackson, comme chez Jericho d'ailleurs, ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein, chez eux. Plutôt
sympa. Oui, hein. Ah bah, Killing the Business, hein. Young Bucks, ah ouais, ouais. Hein,
le terrain de tennis
et de basket.
Avec le ring à côté. Je veux dire, ils ont tout l'équipement qu'il faut pour s'entraîner dans des conditions optimales. Donc c'est sympa. Bon, on est content de savoir que Nick n'est pas rouillé et qu'il est en train de se remettre petit à petit. Et puis parce que de toute manière, ça va faire du bien d'avoir les Young Bucks de retour sur le ring. Donc ouais. donc écoute, c'était plutôt voilà.
Oui. Mais moi je sais pas, je peut-être que je vois le mal oui partout, mais je pense parce qu'il y a une vidéo il y a quelques semaines où Jericho disait pas nous qui avons agressé Nick, on l'a juste trouvé là. Alors évidemment, Jericho c'est un heel et Jericho ment tout le temps. Et ça peut être un truc très logique que de dire non, c'est pas nous, qu'en fait, oui, c'est nous. Mais pourquoi ils se cacheraient de l'avoir agressé alors qu'ils ont pouvoir bomber d'autres personnes des élites c'est pas un problème, quoi. Donc, je me demande si tout ça, c'est pas, en fait, un petit indice qui nous indique que c'est peut-être pas Inner Circle qui a fait ça et que c'est peut-être même quelqu'un interne à The Elite pour préparer un big heel turn bien salace. Attention, mettez avancé de quelques secondes ou minutes si vous voulez pas être spoilé de cette prophétie que je vais annoncer. Je vais peut-être me planter, hein, j'en sais rien. Hein, j'ai pas du tout mes sources auprès de Lottie Westing. Mais est-ce que ça serait pas shit, cowboy shit, Hangman Adam Page?
Ah.
Puisque rappelons-nous, le soir où c'est le soir où il devait a priori peut-être remplacer Kenny Omega dans un match avec Adam Page contre des gens d'Inner Circle où Matt Jackson voulait être le partenaire d'Adam Page du soir. Forcément, vu qu'il y a un gros beef entre lui et Adam Page l'envoie chier. Il demande à Nick s'il est ready à prendre la torche. Nick dit ok, mais Adam Page, il voulait se les faire seul. Donc, est-ce que Adam Page n'est pas en train de briller complètement dans sa tête avec toutes les bières et le whisky qui s'enfilent et que tout ça ne nous amènera pas à un gros heel turn d'Adam Page? Je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça, quoi. Je me trompe peut-être, hein, mais je mettrai mon petit billet là-dessus.
C'est une belle piste, en effet. Ouais. J'avais pas pensé au Adam Page, mais effectivement, vu sous cet angle, ça peut me paraître. Et puis bon, vu que tu as déjà été prophétique la semaine dernière avec Brody Lee et la copie du Vince McMahon, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas le Hangman Page, qu'on n'aura pas vu ce mercredi, quand on a laissé Omega seul dans son opener face à Trent, alors que Chuck Taylor, Orange Cassidy, etc. étaient tous là, eux. Donc, effectivement, c'est une belle piste à creuser, ça.
Voilà, surtout en tout cas en termes de line. ça serait plus générateur d'intérêt en termes d'histoire que ce soit juste OK, Inner Circle qui a pété la gueule à Nick et voilà quoi. Donc on verra bien si mon pari sera gagnant ou pas. En parlant de paris, on va passer à un match où il y a eu des paris pendant le match. Et oui, donc c'est le main event de la soirée où on a donc quatre adversaires du côté gauche du tournoi pour le TNT Championship. D'un côté, les Face, Cody et Darby Allin contre Sean Spears et Sammy Guevara, bien sûr, les heels de service du soir. Donc là, un gros match. Il y en a eu un gros match pour le show. On a un gros match pour finir le show et vous parler de Paris, puisque donc il y a la semaine dernière et il y a deux semaines, eh bien, Sean Spears pariait sur les matchs qu'il y avait durant les shows, notamment avec MJF. Et là, c'est ce soir avec Sammy Guevara qui vont parier. À un moment donné, il y aura toute une séquence où Darby Allin se fera malmener par les deux heels et donc du coup, il y aura un qui fera le pari. Et je parie $50 que je peux tenir en vertical suplex. Darby Allin pendant 10 secondes. Ok, paraît tenu. Puis il le fait. Attends, double or nothing, tout double ou rien. Moi je le fais pendant 15 secondes. Ok, ils le font. Ok, moi je le fais pendant 20 secondes. Bon, au bout d'un moment ça s'arrête, mais les deux balancent des billets comme ça dans le ring.
Qui sort du slip.
Un petit peu le... Ouais, du slip. Donc je te raconte pas là niveau. C'est pas un geste barrière. Hein.
Ah non, ah non.
Toucher le pognon d'un catcheur qui est en train de catcher. C'est billé dans le slip, plein de transpiration génitale. Non, là tu chopes le truc, la saloperie en. Pas que le Covid d'ailleurs, hein, je pense qu'il chope plein de trucs. faites pas ça chez vous, les poteaux de catch-up, soyez safe. Ou alors avec des gants. Bref, un gros match. Donc Darby Allin qui se fait malmener, Cody qui reprendra la main en fin de match, mais tout ceci ne suffira pas puisque les Heels feront entrer une chaise à un moment donné, hein, puisque le gimmick de Sean Spears c'est d'être de Sherman, donc Guevara qui donnera une chaise. Tout ça fait une grosse distraction qui donnera la possibilité eh bien du coup à Spears de faire un roll-up sur Darby Allin pour la victoire, et là ça laissera tout le monde un peu dans le choc, notamment Cody, notamment Darby Allin, et Cody qui ira vers Darby Allin en lui dira bon ben écoute, désolé, tant pis, c'est vraiment des salopards, on pouvait rien faire, mais la frustration et
ah.
Mais on voit que Darby en a un peu ras-le-bol du côté paternalisant et un peu grand frère qu'a Cody, hein. Même quand Cody arrive dans le ring, Darby est déjà là, il lui fera une ou deux petites tapes sur l'épaule genre hey, on va gagner ce soir, et Darby roule un peu des yeux en l'air genre ok si tu veux quoi. Donc du coup voilà, une petite développement de relation entre les deux qui pourront peut-être se retrouver hein, dans ce tournoi, puisque ils vont affronter les gens la semaine prochaine dans le même côté du tournoi. Donc un match plutôt sympa, non?
Ouais, 20 minutes de match à l'égal un peu de ce qui s'est passé dans l'opener, c'est-à-dire un match propre techniquement. Un Darby Allin que j'ai trouvé meilleur que d'habitude dans Entre les Cordes, un peu moins dingue et un peu plus sérieux sur ses exécutions de prise. Toute la phase avec le gambling était plus fun. Bon, effectivement, tout ça, c'était pas très geste barrière, mais c'était quand même fun. On sentait que Spears et Guevara s'éclataient bien. Spears, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il s'est pas mal massifié ces dernières semaines.
Ouais, il a pris de la masse, du muscle, ouais. Un peu de ventre.
Je pense qu'il doit pas mal travailler à la salle le haut du corps là.
Ouais.
Mais qu'il faudrait peut-être qu'il travaille un petit peu plus les abdos là, ou alors c'est le confinement, il abuse un peu de la bière le confinement. Mais le match était plutôt agréable à suivre. Voilà, et puis les gagnent comme des heels quoi, hein, avec un bon petit roll-up des familles.
Ouais.
Et c'était plutôt bien foutu ce truc quoi. Et en plus les gars autour du ring pendant tout le match, que ça soit côté heel comme côté face, ont été vraiment bien chauds, ont bien gueulé pendant toute la phase du match. Donc du coup ça donnait de la vie. Une Aubrey Edwards qui était là, qui a quasiment tout arbitré ce soir quoi.
Ouais.
Elle est vraiment au top des arbitres à la All Elite Wrestling. D'ailleurs j'aime beaucoup cet arbitre. Et vraiment, c'était vraiment pas mal. Alors autant j'étais en colère la semaine dernière qu'on donne un title shot à Guevara pour le titre de méga champion de la AAA, autant là j'ai trouvé que Guevara il avait fait le job.
Ah oui, grave. Hein.
Et puis Spears, on l'a ressorti un peu du formol parce que ça faisait un sacré paquet de temps qu'il n'avait pas catché. Et il a été plutôt à son avantage, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et du coup, c'était un petit main event qui vaut son petit pesant de cacahuète.
C'était super efficace. Il y avait des bons spots. À un moment donné, il y avait une espèce de pilier aux abords du ring. Darby pilier et fait son coffin drop sur Spears et Guevara. Il est une hauteur de près de deux fois plus haut que la croix de corps, donc c'est une hauteur assez sensationnelle. Cody Rhodes qui a une petite séquence de soumission que je trouvais plutôt cool, où à un moment donné il place le sharpshooter, je crois, sur Spears, et puis ensuite il enchaîne un figure four lock, leg lock sur Guevara, ou l'inverse, je sais plus. Bref, ok, tu vois, ça enchaîne. Et puis pareil, victoire des heels, et avec cette petite brouille entre Aline et Cody. Bref, je trouve que là, la dynamique de la partie gauche du tournoi pour la TNT Championship, il y a des trucs qui sont intéressants. Et qu'au final, quoi qu'il se passe, qui que ce soit gagne les deux matchs qu'on va voir, les deux premières matchs de ce bloc, bah, la demi-finale entre les deux sortants, il y aura un truc intéressant qui va se faire, parce qu'il y aura l'historique de ce match, qui en plus fait appel à l'historique d'anciens matchs, hein, Cody contre Darby, qui est une grosse rivalité, enfin, qui a eu des gros matchs, Cody contre Sean Spears aussi, Guevara contre Aline, enfin, bref, ces matchs-là, ils sont pas random, je trouve. Du côté droit, c'est plus random, parce que c'est Dustin Rose contre Kip Sabian, il n'y a pas vraiment d'historique, Lance Archer contre Cabana non plus, mais du côté gauche, c'est plutôt bien foutu, bien amené. Pour un tournoi, ils mettent des petits trucs en place qui sont, je trouve, assez cool. Et encore une fois, quand je vois ce soir la performance de Guevara et d'Aline, franchement, dans 4-5 ans, je vois un match en main event de pay-per-view entre les deux pour le titre ultime, quoi, de l'élite.
Ah ouais, t'en es là, toi, carrément.
Sammy Guevara et Darby Aline, pour moi, c'est fait partie d'un avenir pour la Elite Wrestling. Malgré leur gabarit, je pense quoi, dans 4-5 ans, peut y avoir un match de titre entre les deux, parce que ils sont jeunes et ils ont plein de talent, et ils vont pas arrêter de grandir et de se perfectionner avec le temps et tout l'entourage qu'il peut y avoir à l'Elite Wrestling. Et je miserais bien sur l'avenir sur ces deux-là, quoi.
D'accord. Bah moi je suis un peu plus circonspect que toi.
J'entends.
Sur Darby Allin en particulier, plus que sur Sammy Guevara. Après, par contre, moi, je suis vachement satisfait parce que j'en avais déjà parlé, je suis vachement satisfait que la AEW nous sorte un titre intermédiaire. Je trouve que c'est une très bonne idée de leur part, parce que vu ils ont quand même un roster assez conséquent, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, une bonne initiative de nous coller un titre intermédiaire. Ça va impliquer encore plus les catcheurs dans différentes storylines. Ça va créer vraiment, tu vois, vraiment là on va avoir la partie main eventer, la partie mid-carder, et je trouve que ça c'est une bonne chose. Et écoute, du coup j'attends ce tournoi avec une certaine impatience, et il y a des matchs dans ce tournoi, il y a des matchs qui déjà d'ores et déjà m'intéressent, et par exemple Sean Spears versus Cody là en 1 contre 1, ça c'est un truc qui me hype, et donc je suis vraiment satisfait de la création de ce TNT Championship.
Ouais. Ah bah cool, on est deux, et je pense qu'on est bien plus que ça, effectivement, c'est bienvenu, comme tu l'as dit, avec les nouvelles arrivées, il était temps d'avoir un titre pour occuper tout ce beau monde. Bien, alors il est temps maintenant de décider, mon cher tonton Chris, pour toi cette semaine, qui c'est qui gagne la baston du mercredi?
Alors, qui a gagné cette baston des hooligans là, du catch du mercredi soir? Eh bien, pour votre tonton Chris, ce soir, ça sera la... All Elite Wrestling. Personnellement, voilà, j'ai beaucoup kiffé l'ensemble du show de la All Elite. Voilà, beaucoup plus vivant. Le fait d'avoir des catcheurs en bord de ring, ça change quand même un peu les choses. J'ai trouvé que c'était mieux construit, qu'on nous a en plus apporté des nouveaux éléments avec l'apport du TNT Championship dont on vient de parler. Je suis très hypé par l'arrivée de Lance Archer. J'ai trouvé Chris Jericho très drôle. J'ai trouvé l'opener et le match en termes de catch pur de très bonne qualité. Des combats propres et vraiment intenses. Et ça m'a bien plu. Et je suis en plus satisfait pour la division féminine de la montée en puissance de Hikaru Shida. Donc cette semaine,
Le NXT était pour moi très moyen. Et non, oui, vraiment, vraiment, cette semaine, il n'y a pas photo. C'est la All Elite Wrestling qui remporte la baston du mercredi.
Eh bien, très bien. Il n'y aura pas d'égalité puisque je suis aussi d'accord. Donc, c'est la All Elite Wrestling qui remporte la troisième baston du mercredi. Très clairement. En plus, moi, j'ai regardé les choses d'affilée ce matin. Et j'ai commencé par All Elite, puis après NXT. Et franchement, dans cet ordre-là, c'était compliqué NXT, quoi. Vraiment, parlant le manque d'ambiance, le manque de d'éléments un peu légers, un peu fun, un peu entraînant, et le match de Main Event qui m'avait un peu déçu sur NXT. Vraiment, c'était compliqué de passer après le All Elite Wrestling. Donc, si vous voulez regarder les deux shows et que vous écoutez d'abord ce podcast, et ben du coup, je vous conseille plutôt de faire l'inverse, commencer par NXT puis après All Elite, parce que dans l'autre sens, moi j'ai ça a été complexe.
Moi, c'est ce que moi j'ai regardé d'abord NXT et après j'ai regardé la All Elite Wrestling. Donc du coup, si tu veux, le weekly de la All Elite m'a un peu rassénéré, quoi, parce que effectivement après le NXT j'étais un petit peu chafouin et donc du coup clairement le All Elite Wrestling m'a carrément fait relever la barre.
Eh bien, très bien. Je ferai ça la semaine prochaine. Je regarderai d'abord NXT, All Elite.
D'accord.
Pour la fin. Eh ben très bien, du coup ce moment de petite promo, demain pour le Reddit Wrestling, on verra bien la semaine prochaine et on verra bien ce que les audimates nous diront, hein, parce que encore là maintenant on n'a toujours pas les audimates pour cette semaine. Et donc du coup pour nous écouter, pour nous suivre tout ça, eh ben du coup vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook niveau réseaux sociaux. Instagram également, et pour nous regarder en termes de podcast vidéo, même si on ne voit pas en vidéo, mais on voit des super visuels, tout ça, c'est sur YouTube, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, laisser des commentaires, ça nous aide beaucoup pour avoir votre feedback dans un premier temps, et puis pour savoir si ce qu'on fait vous plaît ou pas, ne serait-ce que pour gagner en visibilité de la chaîne, c'est très cool, et après on est présent sur tout.
Pour être référencé.
Exactement. Voilà, pour que plus de gens qui s'intéressent au catch puissent nous trouver. Et puis aussi, on est sur toutes les plateformes audio en podcast, hein. Donc, avec tout, Google, Spotify, Deezer, Ocha, j'en passe, et des meilleurs. Donc, voilà, on a plein d'actualités. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour savoir. Là, on vient de sortir hier un You Talk Too Much, hein, donc l'émission Tonton Chris, hein, où il interview des gens de la communauté catchesque française avec, donc, cette semaine, un invité Sturi de 3CFM et donc de C'est ça le catch. Donc, très, très bonne interview. Voilà, on a tous les reviews des Raw, des SmackDown et des pay-per-view. On a un gros programme qui arrive forcément avec Mania. Hein, Mania confiné, mais Mania quand même. Donc, on va voir exactement qu'est-ce qu'on va faire. Mais dans tous les cas, on va en parler, certainement faire des pronostics et des reviews. Pas du show, mais des shows, hein, puisque c'est deux nuits cette semaine, Mania, samedi et dimanche. Donc, pour tout ça, suivez-nous, abonnez-vous. Et puis, on vous dit à très, très, très bientôt. Moi, je te remercie très chaudement, Chris, hein, pour cette baston des mercredis. C'est toujours très cool de faire ça avec toi.
Ouais, c'est cool. Pareil pour moi, mon triple A. C'était un bon kiff. Voilà, la baston du mercredi est lancée sur de bons rails.
Tout à fait. Et puis, on vous dit à très bientôt et passez une excellente semaine pleine de catch. Salut.
Salut, amiral. Salut, peuple de catcheurs. AEW, 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 AEW.